Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Le pape François est en forme, ce n'est peut-être pas l'information la plus recherchée en cette rentrée, pourtant cela est bien vrai, joyeux et vigoureux, le pape François donne le ton. En voyage en Afrique australe, le pape s'est ainsi montré rayonnant au milieu de milliers d'enfants sortis de la misère, notamment par la foi d'un prêtre, incisif à l'égard des autorités civiles souvent corrompues des pays visités, plein d'espoir quant aux immenses défis écologiques de notre temps. Un pape François qui s'est même montré devant la presse d'une franchise peu commune, parlant des critiques dont il est l'objet un peu partout et aussi dans la curie, dénonçant ceux qui te font des sourires et après te poignardent dans le dos, et allant même jusqu'à parler de possibilités de schisme dans l'Église. L'actualité de l'Église universelle, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Avec nous pour toute cette émission pendant une heure, et on le remercie vivement, Nicolas Senez, vous êtes journaliste et correspondant du journal La Croix à Rome. Bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes revenu hier de ce voyage en Afrique australe, donc on vous remercie. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre, on en parlera dans cette émission, récemment paru, « Comment l'Amérique veut changer le pape », paru aux éditions Bayard. Ce matin, Patrice de Plainquette, dans une chronique à notre antenne, en parlait. Je vous propose de peut-être proroger quand même l'écho qu'a trouvé cet ouvrage. Vous revenez donc d'un voyage pontifical. Je le disais en introduction, alors moi je ne suis pas, on va dire, jour après jour le pape François, mais vu de loin, on a l'impression que c'est une rentrée tonitruante pour le pape François.
Ah, il est effectivement très très en forme. On sent qu'il s'est bien reposé cet été, et puis qu'il aborde effectivement les défis de cette rentrée. Hein. Il y avait donc ce voyage qu'il a mené tambour battant, où on l'a senti vraiment tout le temps extrêmement dynamique. Et puis avec les autres, on en reparlera certainement, mais avec les autres défis qui se profilent, en particulier synode sur l'Amazonie.
Alors, vous avez suivi donc le pape François qui était donc en voyage en Afrique australe, dans trois pays, le Mozambique, Madagascar et l'île Maurice. Le Mozambique et Madagascar qui sont des pays très pauvres, hein, parmi les pays les plus pauvres de la planète, les 10 derniers pays les plus pauvres de la planète. Si on fait ça dans l'ordre, on commence par le Mozambique, où le pape François a passé, je crois, 48 petites heures, non, à peine.
Oui, en fait, c'est compliqué parce qu'on arrive. Donc le pape est en forme, mais son entourage prend aussi soin de le ménager. Donc on est arrivé mercredi soir, on est resté deux jours sur mercredi soir, on n'a rien fait et on a commencé vraiment le voyage le jeudi matin. Jeudi, vendredi, on est reparti en fin de journée pour Madagascar.
Alors, les thèmes sont multiples. J'en ai retenu pour le Mozambique et je vais vous laisser développer. Il a commencé évidemment par soutenir la paix de ce pays, la paix qui n'a pas de prix, a-t-il laissé entendre, dans un pays qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça de la guerre civile. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce premier aspect?
Oui, c'est un pays qui a connu une longue guerre civile, une guerre civile meurtrière, et pour laquelle l'Église catholique, en particulier la communauté de Sant'Egidio, qui est une communauté de laïcs romaines, très liée au Saint-Siège, a effectué une médiation fin des années 80, début des années 90, pour obtenir en 1992 un accord de paix qui a mis fin à cette guerre civile. Alors qu'est un accord de paix fragile, hein. On sent que, par exemple, il y a eu un nouvel accord là il y a quelques mois pour essayer d'aller plus loin et de mettre fin à la guérilla s'est effectivement continué, on va dire, dans des oppositions politiques parfois fortes. Nous on l'a senti pendant qu'on était là-bas. On est arrivé en pleine campagne électorale où le président au pouvoir se représentait et partout dans les rues, on a vu que des affiches du président sortant, très peu d'affiches du pape et rien de l'opposition. Et en discutant dans les avec des représentants de l'opposition, on disait mais quand même, est-ce que vous craignez pas quand même une récupération politique de ce voyage? Et voilà, l'opposition était tout à fait consciente des risques et en même temps expliquait que le message que le pape portait, justement, aller au-delà de ces récupérations politiques pour montrer justement les véritables enjeux qui sont aujourd'hui. Il y a eu des combattants, dans ce pays qui est un des plus pauvres au monde, comment ceux qui ont déposé les armes, on leur donne une autre opportunité de faire quelque chose dans la vie, de pas s'ennuyer, de pas rester dans la pauvreté, où la seule solution, finalement, c'est une nouvelle fois de reprendre les armes, parce que c'est la seule chose qu'ils savent faire.
Voilà, le PIB hein, du Mozambique, j'ai regardé ça en préparant l'émission, c'est 1256 euros dollars par habitant, c'est 35 fois moins que le PIB de la France, ça dit quand même quelques réalités. Donc le pape François a parlé aussi donc, de la réconciliation, je le cite, il est difficile de parler de réconciliation quand sont encore vives les blessures provoquées par de nombreuses années de discorde, ajoutant c'est un commandement qui vise une bienveillance active, désintéressée et extraordinaire envers ceux qui nous ont blessés. Il y a un autre thème que le pape François a abordé qui est opportun en Afrique, c'est la fameuse dénonciation de la théologie de la prospérité. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est cette théologie et ce que le pape François a dit sur ce sujet?
Alors cette théologie, c'est quelque chose qui est assez présent, qui vient du protestantisme évangélique et qui explique, à gros traits, hein, que la richesse matérielle, la santé, sont les fruits sont des bénédictions de Dieu. Et donc, le fait de croire en Dieu, d'adhérer à l'Église, offre effectivement santé physique, richesse matérielle, et qu'au contraire, le fait d'être soit malade, soit pauvre, finalement, c'est un signe qu'on n'est pas finalement un bon chrétien. Évidemment, dans ces pays extrêmement pauvres, que ce soit le Mozambique ou Madagascar, c'est un discours qui touche beaucoup de monde, qui touche les jeunes, parce que ils sont tellement au fond du trou que là, voilà, on leur propose, on leur fait miroiter cet espoir-là. Et cette dénonciation de cette théologie de la prospérité a traversé beaucoup, beaucoup des discours de François, parce que c'est finalement... c'est vrai que c'est pas facile de porter ce discours heureux les pauvres dans un pays où finalement les jeunes sont sensibles à ces sirènes de la richesse. On l'entendait hein, de la part, que ce soit au Mozambique ou à Madagascar, des gens qui disaient, mais finalement, ici, aujourd'hui, les jeunes, ils sont prêts à tout pour quelques dollars. Et donc, voilà, il est venu rappeler que, et en particulier à l'Église, parce que ces voix-là, on les entend aussi quelquefois dans l'Église, que justement, le fait d'être chrétien, le fait d'être d'agir auprès des plus pauvres, l'action chrétienne, on ne doit pas y chercher un retour matériel. Et il a eu de très belles paroles, en particulier quand il est allé rencontrer les malades du sida. Il a eu une très belle phrase où il a expliqué aux soignants, et quand vous voyez ces personnes qui sourient aujourd'hui parce qu'elles ont été traitées avec dignité, ça c'est l'acompte que le Seigneur vous a versé, l'autre partie vous sera versée par le Seigneur à son retour, et cela vous comble de joie. Et ça, voilà, c'est vraiment le message de dire... de renverser, de pervertir ce message de la théologie de la prospérité en replaçant l'action chrétienne dans une logique vraiment catholique, pour le coup.
Alors, à propos de la pauvreté, si on avance dans le voyage du pape François, donc après, il s'est rendu sur l'île de Madagascar, qui, je le disais, est aussi une ville, une île donc, et un pays qui est d'une grande pauvreté.
Oui, alors, j'ai plus les chiffres, mais on nous disait, voilà, Mozambique et Madagascar, c'est le cinquième et le septième pays le plus pauvre au monde.
Oui, c'est ça. Enfin, en tout cas, dans les dix pays les plus pauvres de la planète. À propos donc de cette pauvreté, il a aussi souligné au Mozambique que c'est une terre, une nation bénie de ressources naturelles. Je crois qu'il a laissé entendre sur la même chose à Madagascar, laissé entendre qu'il y avait de réelles richesses. Il a dit que la misère ne fait pas partie du plan de Dieu, et il a eu des mots très forts et assez verts hein, à l'égard des autorités civiles, notamment à Madagascar. Racontez-nous cet épisode où il a presque repris en direct le président de la République qui avait eu un discours un peu messianiste.
Oui, alors dans les deux pays, effectivement, c'est des pays extrêmement, qui ont de grandes richesses. Hein. Au Mozambique, on a découvert, par exemple, d'énormes ressources de gaz, au point que le pays aspire à être, au cours de la prochaine décennie, un des plus gros exportateurs de gaz au monde, donc avec aussi beaucoup de retombées pour le pays. Et en même temps, il y a un certain nombre d'autres nations, un certain nombre d'entreprises qui lorgnent sur ces richesses et qui sont prêtes à tout pour mettre la main dessus, et que finalement ça ne profite pas non plus au peuple mozambicain. Et à Madagascar, c'est la même chose. Il y a un pays qui a d'énormes ressources naturelles, mais qui sont pillées et qui ont été pillées par notamment à cause de la corruption. Voilà, on a un projet, on déforeste, on donne un petit peu d'argent aux responsables et hop, on peut couper tous les arbres. C'est un pays qui avait une grande forêt tropicale dont on estime que d'ici 10 ans, elle aura complètement disparu, alors que c'est un pays qui a, je crois, 5%, il y a 25% des espèces dans le monde qui n'existent que là. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement fragile. Et voilà, dans ce pays extrêmement pauvre, où les hommes politiques se sont aussi battus pendant une dizaine d'années pour avoir le pouvoir, avec pas une guerre civile, mais des tensions politiques et
des luttes politiques importantes,
extrêmement
oui.
fortes. Il y a eu ce discours du président malgache au moment où il accueillait le pape, et il a rajouté, en fait, dans le texte qu'il avait donné à l'avance au Vatican, toute une partie où il se présentait comme celui qui était le sauveur de son peuple, qui « j'ai entendu le cri de mon peuple et je vais le sortir de la pauvreté ». Et voilà, alors que François, lui, dans son discours, mettait quand même en garde de façon très forte les autorités malgaches, justement, contre cette corruption, contre cette déforestation.
Alors, si ça vous dérange pas, je vais vous citer, en l'occurrence, en tout cas, citer le pape François dans un de vos articles que vous citez vous-même. « La vie nouvelle que le Seigneur nous propose se transforme en injustice scandaleuse pour ceux qui croient que l'accès au royaume des cieux peut seulement se limiter ou se réduire au lien du sang, à l'appartenance à un groupe déterminé, à un clan ou à une culture particulière. » Et puis, donc, à l'adresse du président malgache, Andry Rajoelina, « l'exigence du maître nous encourage à ne pas manipuler l'évangile par de sombres réductionnismes. » Vous qui avez suivi ça de près, les autorités civiles, alors vous me direz, les réactions se lisent pas forcément sur les visages, mais voilà, c'est une liberté dont François est coutumière.
Ah oui, 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 ça, il n'a jamais peur de dire aux uns aux autres ce qu'il pense, que ce soit dans les discours ou dans les rencontres en tête-à-tête. Voilà, sur la corruption, sur le clientélisme, je rencontrais un diplomate sur place qui me disait, voilà, il y a officiellement une lutte contre la corruption. Là, récemment, à Madagascar, le directeur des douanes a été arrêté et mis en prison pour avoir détourné 25 millions d'euros au cours de son mandat. Mais on sent aussi que ce sont des règlements de compte entre, après l'alternance politique, et entre différents clans. Et ce diplomate le disait, le véritable test, c'est quand on mettra en prison des proches du pouvoir.
Voilà, ça c'est une réalité, oui, que j'ai vue aussi donc dans l'un de vos articles. À propos de Madagascar, on a l'impression que c'est comme une introduction peut-être prochain synode de l'Amazonie. Le pape François a aussi largement parlé de la déforestation. Vous l'avez dit, d'ici 2040, si rien n'est fait, les forêts donc tropicales que compte l'île de Madagascar auront disparu. On imagine que c'est une catastrophe écologique locale et au-delà. Qu'est-ce qu'il y a eu de particulier sur ce sujet de la déforestation? C'était des propos généraux ou est-ce qu'il y a des choses plus précises qui ont été dites par le pape François?
C'était des propos généraux, mais sur la question effectivement écologique, il a véritablement ciblé cette question de la déforestation. Et il faut reconnaître que c'est pour avoir survolé Madagascar, dans l'avion, on a tous été frappés de voir à quel point c'était devenu pelé. Voilà, il n'y a plus un arbre, tout est pelé, on voit la terre à nu, et c'est véritablement inquiétant pour ce pays qui était une île verdoyante. Voilà.
Alors, le pape François, je le disais en introduction, qui s'est offert, j'allais dire, un bain de jouvence, en tout cas, probablement un moment très émouvant, comme souvent au cours de ses voyages. Là, c'est dans un lieu qu'on connaît un petit peu en France, lieu donc qui s'est développé entre autres à l'initiative d'un père lazariste argentin, Pedro Opeka, un bijou de charité, selon les mots du nonce de Madagascar. C'est donc, je vais vous laisser décrire. Le pape François a assisté à une messe haut en couleur avec quelques milliers d'enfants où on sentait qu'il était tout à fait à son aise. Racontez-nous ce lieu extraordinaire que le pape François a visité.
Alors, ce n'était pas une messe, hein, parce qu'il y avait eu la messe le matin.
D'accord.
C'était, voilà, il y a eu une rencontre avec une prière et un spectacle fait par ses enfants. On sentait qu'ils avaient une espèce d'immense gymnase rempli d'enfants. Alors, avec à la fois une joie immense et en même temps, on les sentait très disciplinés. Ils avaient vraiment à cœur d'accueillir le pape. C'est vrai qu'on mettait des enfants dans un gymnase, surtout qu'ils attendaient là depuis quand même
Il y en avait quand même 8000, hein, oui, c'est...
Voilà, on peut penser qu'au bout d'un moment, ils soient un petit peu dissipés, que ça aille dans tous les sens. Là, pas du tout. Je ne sais pas, comme transcendé par cette joie d'accueillir le pape François parmi eux. Et puis, c'est le père Pedro Opeka, donc vous avez dit, un lazariste argentin qui était envoyé en mission à Madagascar et qui se demandait ce que c'était. Il voyait des fumées en haut d'une colline. Il est allé voir et il a découvert un beau jour une immense décharge avec des familles de chiffonniers, un petit peu comme Sœur Emmanuel au Caire, hein, des chiffonniers qui vivaient là, de la décharge. Et il a décidé de les aider à s'en sortir. Il a fondé donc ce qu'on appelle la Cité de l'Amitié, qui est un lieu où il fait travailler, il offre un emploi aux parents. Il y a une carrière que le pape a, où le pape est venu d'ailleurs bénir et prier avec les travailleurs pour souligner justement que voilà, en retrouvant la dignité d'un travail, il y a déjà un premier pas pour sortir de la pauvreté. Et donc, il y a à la fois un travail dans la carrière, et puis les enfants, eux, ont droit à une éducation, de qualité, qui permet justement aussi à toute la famille, petit à petit, de sortir de la pauvreté. Cette espèce de cité nouvelle, de ville nouvelle.
Alors, on peut donner des chiffres.
Finalement,
hein.
On pourrait résumer ce que... un exemple de la façon de doctrine sociale de l'Église, finalement, de comment aujourd'hui on peut faire une économie qui donne une dignité à l'homme et qui permette à chacun de s'en sortir. Il y a une très belle prière du pape, justement, qui soutenait cette volonté, ce message de dire, la dignité des hommes et des femmes qui leur permet justement d'avoir un travail. Qui leur permettent de nourrir leur famille et de faire grandir leur famille. Et donc, voilà, tout ce lien entre le travail digne, la vie familiale, qui permet aussi aux parents de s'occuper de leurs enfants, l'éducation des enfants, voilà, tout ça, c'est extrêmement lié. Et c'est là-dessus que François a voulu insister, dans une ambiance de joie, mais absolument extraordinaire.
Une grande œuvre, donc, célébrée par François. Il y a 8 villages, 3000 maisons accueillant 23000 familles, 8000 enfants pauvres. Et c'est ce lieu qui est venu en aide à près de 500000 malgaches, et je lui aussi. Et le pape François dit la chose suivante, Akamasoa, puisque c'est l'autre nom de ces villages,
mais, malgache,
et l'expression de la présence de Dieu au milieu de son peuple pauvre, ajoutant que Dieu a décidé de vivre et de demeurer toujours au milieu de son peuple. Avant qu'on fasse une première pause...
Pour la petite histoire, oui, pardon. Le père Pedro est argentin et en fait il a connu le pape François. Il se trouve que les lazaristes envoyaient leurs novices et jeunes prêtres en formation dans le Collegio Massimo de Buenos Aires où le pape François était professeur et il a eu comme élève le père Pedro. Le père Pedro ne s'en souvenait pas.
Il y a d'ailleurs une accolade.
François.
Il y a d'ailleurs, pardon, je vous coupe, mais il y a j'ai vu une photo d'une accolade très émouvante hein, du pape François avec le père Pedro.
Oui, et il a dit aux enfants, il fait, bon, je vais vous dire quand même un secret, il ne se souvenait pas qu'il avait été mon élève, et moi je m'en souviens bien. Il ne voulait pas beaucoup étudier, ce qu'il voulait, c'est travailler. Et puis bah, finalement, il a eu raison parce que le travail qu'il a fait, voilà ce que c'est aujourd'hui. Il pouvait que le féliciter pour cette œuvre accomplie.
J'avais une dernière question, Nicolas Senez, avant qu'on fasse donc une première pause, à propos de la jeunesse. Partout où il est passé, le pape François a exhorté la jeunesse à rêver, à oser, voir grand. On sent qu'il essaye de consolider, l'avenir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette logique du pape François, probablement dans chacun de ses voyages, mais peut-être de manière aiguë dans ces régions-là?
Ce sont des pays extrêmement jeunes, hein, que ce soit le Mozambique ou Madagascar. Mozambique, je crois qu'on avait plus de 40% de la population qui a moins de 15 ans. Donc c'est un énorme défi pour ces pays. Et il a voulu souligner à quel point, peut-être par rapport à ce qu'il nous l'a rappelé dans l'avion, hein, cette Europe grand-mère qui finalement ne rêve plus à son avenir, de souligner que cette jeunesse de ces pays était leur richesse. Et c'était sans doute cette jeunesse qui pouvait les aider ces pays à s'en sortir, à progresser. Et il a exhorté aussi l'Église à ne pas oublier cette jeunesse. On l'a vu aussi dans un certain nombre de pays où on voit que même dans ces pays extrêmement jeunes, l'Église a tendance à vieillir parce qu'aujourd'hui, les jeunes ne se retrouvent plus dans l'Église. Et ça, c'est un vrai défi, un véritable enjeu aussi pour ces églises-là.
On fait une pause et on vous retrouve. On va parler entre autres de la mort donc du cardinal Etchegaray, même s'il avait un certain âge, il a probablement laissé un souvenir dont vous pouvez nous donner quelques échos au Vatican, et on parlera de la nomination donc de futurs cardinaux et des débats qui ont cours au sein de la Curie.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
L'actualité de l'Église universelle, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Avec nous, pour en parler, Nicolas Senez, journaliste, correspondant du journal La Croix à Rome, et donc auteur d'un ouvrage, enfin entre autres, récemment paru, Comment l'Amérique veut changer le pape, paru aux éditions Bayard. On en parlera à la fin de cette émission. J'allais passer à autre chose, mais en effet, vous m'avez rappelé à l'ordre, et vous avez raison, puisque le pape François n'est pas seulement allé au Mozambique, à Madagascar, mais aussi à l'île Maurice. On pouvait lire sur sur le site de Vatican News que ainsi le pape François embrassait un peu une partie de l'océan Indien et que étaient visitées indirectement aussi les îles Rodrigues, Agaléga, La Réunion ou les Comores et les Seychelles. On pouvait lire aussi sur Vatican News que c'est une visite déjà considérée comme historique. Alors historique pourquoi ? Parce que le pape François se rend pas souvent à l'île Maurice ou parce que ça a été particulièrement marquant pour les chrétiens là-bas ?
Bah les deux, c'est vrai que Jean-Paul II était passé à l'île Maurice, mais là, effectivement, cette visite du pape était... On sentait vraiment une véritable joie, très, très décomplexée. C'est dans un lieu magnifique, avec une vue sur la ville et la mer, avec des champs où on sentait voilà, les gens... Il y a 100 000 fidèles qui ont vraiment célébré de tout leur cœur dans une messe qui était vraiment, enfin pour nous les vaticanistes, on suit le pape quand même sur beaucoup de messes, mais vraiment on se disait là, on a rarement vu quelque chose, une célébration aussi belle dans les voyages du pape. Et ça voilà, ça nous a touchés. On a senti le pape effectivement aussi assez touché de ce qu'il voyait. Et alors... puis on est dans un pays aussi qui est beaucoup plus prospère hein, de ce qu'on a vu au Mozambique ou à Madagascar, mais avec aussi des pauvretés. Et là encore, on le disait, hein, la jeunesse, il a mis en garde justement sur l'abandon de la jeunesse dans un pays où voilà la prospérité économique met quand même sur le bord du chemin un nombre de jeunes qui ne se voient plus d'avenir et qui sont extrêmement ciblés aujourd'hui par le trafic de drogue de synthèse, qui est un très gros problème dans le pays. Et donc il a appelé là aussi, encore une fois, à ne pas mettre de côté cette jeunesse.
Alors il y a une autre réalité, c'est donc la réalité interreligieuse qui est très importante sur l'île. Je lisais entre autres qu'il y a une grande figure là-bas qui s'appelle le père Laval, qui est un peu le père spirituel de l'île Maurice, apôtre de l'unité nationale, peut-on lire aussi, avec un lieu qui est un sanctuaire et où se rendent entre autres de nombreux hindous pour prier dans ce lieu donc chrétien. Racontez-nous la réalité interreligieuse de cette île et ce que le pape François est venu dire à propos à ces différentes confessions, ces différentes religions. Pardon.
D'abord que c'était un pays qui était né de l'immigration, puisqu'il y a eu une immigration, on va dire, de colons blancs, il y a eu des esclaves, et puis après la fin de l'esclavage, une grande immigration de travail d'origine indienne, qui sont aujourd'hui la majorité de la population. Et donc, chacun de ces groupes est venu avec ses propres traditions, à la fois culturelles et religieuses, et avec la réussite, finalement, d'une coexistence des différentes religions qui fonctionne plutôt bien. Alors, on va dire aujourd'hui, il y a une moitié d'hindous, un quart de catholiques et un quart de musulmans, et ça, voilà, ça fonctionne. Cette coexistence fonctionne bien et c'est ce que le pape a voulu saluer, avec aussi le fait que l'État mauricien veut continuer cette immigration pour renforcer son développement économique et donc effectivement il a exhorté le pays à continuer dans cette tradition d'accueil de personnes de différentes cultures et religions, et montrant justement à quel point ça a fait la richesse de ce pays.
Alors, on va passer à une autre réalité en restant à l'échelle de l'Église universelle. Je voulais vous interroger un petit peu sur le cardinal Etchegaray. Il avait quitté le Vatican depuis quelques années. Il est donc décédé le 4 septembre dernier à l'âge de 96 ans. C'était donc un cardinal français d'origine basque. On en a parlé déjà à cette antenne et on en reparlera. Je vous demanderai juste, j'ai pu lire pas mal de choses dessus, mais qui laisse entendre qu'il était profondément estimé donc au Vatican. C'était un des intimes de Jean-Paul II. C'est quelqu'un qui avait laissé encore un souvenir, on va dire, vivant, même s'il était parti depuis quelques années, Nicolas Senez, à Rome.
Il était parti depuis 2 ans. Effectivement, son départ avait marqué, parce que ça restait quelqu'un de... Même s'il n'était plus actif, au sens qu'il n'avait pas forcément de grandes responsabilités, il restait effectivement une figure morale. Jusqu'à son départ, il était vice-doyen du Sacré Collège, c'est-à-dire finalement le numéro 2 des cardinaux. Et voilà, il était celui qui, sous Jean-Paul II, hein, avait été, on va dire, l'homme des missions diplomatiques difficiles dans des pays où, justement, le Vatican n'était pas là toujours officiellement. Lui était finalement ce délégué de Jean-Paul II pour essayer de dénouer des crises. Par exemple, il avait été en Irak. Voilà.
Entre autres, sous la guerre froide aussi. Hein, c'est...
Oui, mais voilà, c'est vraiment ça. On peut résumer, c'était l'homme des missions difficiles de Jean-Paul II. Et ça, effectivement, cette vision de dialogue, surtout sous le pontificat de François, mais il était aussi très, très estimé, par exemple, de Benoît XVI, faisait de lui vraiment, on va dire, une figure tutélaire au Vatican.
Alors, il y a une autre nouvelle à propos du Vatican et du Collège Cardinalis, la création donc de 13 nouveaux cardinaux qui a été annoncée le 1er septembre dernier, dont 10 cardinaux électeurs en cas de conclave, puisqu'il y a une limite d'âge, et ces nominations dessinent donc une continue de décider un nouveau visage de la curie, pas de la curie, mais de, comment dire, du sacré collège. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, enfin déjà une vue générale sur ces nominations, Nicolas, vous titriez dans le journal La Croix, le pape François nomme 13 nouveaux cardinaux, signe d'une église ouverte et en dialogue.
Oui, c'est vraiment, c'était très frappant de voir à quel point, en se concentrant sur les 10 électeurs, hein, c'était la volonté du pape François de mettre en avant cette église en dialogue qu'il promeut depuis le début de son pontificat. Ce sont tous des hommes qui ont justement beaucoup œuvré dans cette direction-là, de partout où ils sont. Enfin, le premier d'entre eux, Monseigneur Ayuso, qui est le responsable du dialogue interreligieux, ou bien le père Verny, qui est le responsable des migrants, et puis des évêques, on va dire, du monde entier, qui, partout où ils sont, ont poussé cette question de l'ouverture, du dialogue. Et on sent, voilà, que d'une certaine façon aussi, François, il a 84 ans, donc il sait bien qu'il n'est pas éternel, qu'il est plus près sans doute plus près de la fin de son pontificat que du début. Donc il y a aussi cette volonté de préparer le prochain conclave pour que cette réforme de l'Église qu'il a entamée puisse se perpétuer.
Voilà, il vous notiez entre autres dans un article, pour la première fois, plus de 50% des électeurs ont désormais été nommés par le pape François lui-même.
Oui, c'est une barre symbolique, hein, d'une part, parce qu'il faut 2/3 des voix pour être élu pape. Mais et puis que, voilà, surtout depuis au début du pontificat, tous ceux qui ont été nommés cardinaux ne sont pas forcément n'ont pas forcément été des hommes de François. Puis par ailleurs, il ne faut pas oublier que ceux qui ont été nommés par Benoît XVI et Jean-Paul II sont aussi ceux qui ont élu François. Donc, voilà. Mais cette barre symbolique montre, voilà, à quel point aujourd'hui le pape François a mis ses hommes dans le conclave.
Est-ce que vous pourriez mettre un coup de zoom sur quelques-uns de ces hommes? Vous l'avez cité, alors vous devez bien le connaître, mais entre autres Mgr Miguel Ayuso Guixo, qui est donc président du Conseil pontifical pour dialogue interreligieux, qui était son secrétaire avant, qui a été nommé il n'y a pas très longtemps, et qui, entre autres, je ne sais pas s'il a écrit, en tout cas, est derrière le fameux document sur la fraternité d'Abu Dhabi, dont on avait parlé à cette antenne l'année dernière, qui a été co-signé donc par le pape François et par le recteur de l'université musulmane sunnite d'Al-Azhar. Monseigneur Ayuso, peut-être un premier quelques mots sur cet homme et sur ce qu'il dit du pontificat du pape François.
Bah, c'est un homme qui est vraiment effectivement c'est l'héritier aussi du cardinal Torrent, qui avait été son président, et c'est un homme pour qui, voilà, qui explique en permanence à quel point l'Église est, comme il dit, est condamnée au dialogue, c'est-à-dire c'est le dialogue ou la guerre. Et donc, l'Église ne peut que choisir le dialogue parce que c'est ça qui, finalement, qui amènera à la paix. Et puis, c'est aussi peut-être ce nouveau tournant du pape François de dire, ben, nous choisissons le dialogue parce que c'est une façon aussi de mettre les personnes en face de leur responsabilité de l'autre côté. Et donc, nous dialoguons avec tous ceux qui sont prêts, justement, à ce dialogue. C'est aussi une façon de finalement d'isoler dans toutes les religions ceux qui justement refusent le dialogue et choisissent la confrontation violente. Donc voilà, en choisissant, en tendant la main à tous ceux qui veulent dialoguer, ça renforce aussi ce camp du dialogue un peu partout dans le monde et montre à quel point aussi ceux qui veulent le dialogue se mettent en marge finalement du reste.
Je voulais qu'on s'arrête sur deux autres figures, en tout cas c'est celle que j'ai choisie, mais vous pouvez en choisir d'autres, plus proches de nous, donc un francophone et donc un européen, Mgr Jean-Claude Olrich, qui est donc archevêque de Luxembourg, qui est aujourd'hui le président donc, de la COMECE, c'est la commission des épiscopats de la communauté européenne, qui n'a pas la tâche facile, parce qu'on ne peut pas dire que la voix de la COMECE soit très entendu dans les pays européens. Là aussi, un petit mot peut-être à propos de Mgr Olrich et de ce choix.
Oui, là c'est vraiment un message clair envoyé à l'Europe d'axer sur une figure qui s'est également montrée donc, à la fois le dialogue avec les institutions européennes, mais aussi quelqu'un qui montait au créneau à plusieurs reprises pour s'inquiéter justement de la montée des populismes en Europe et de tous ceux qui voulaient finalement dissoudre la construction européenne. Quelqu'un aussi qui, je lisais là, après sa nomination, il racontait avoir été très marqué par tous les messages qu'il a pu recevoir de partout dans le monde et de partout en Europe après sa nomination. Et le message qui m'a le plus frappé, c'était celui de l'équipage d'un navire en Méditerranée, un de ces navires d'association qui croise en Méditerranée pour aider les migrants. Et là aussi, c'est quelque chose sur lequel la COMECE est très engagée pour favoriser justement cet accueil des migrants en Europe et puis aussi trouver enfin une solution à un blocage qui fait que les différents États membres se refusent à coopérer pour trouver une solution au niveau européen à cet accueil d'immigrants, qui fait qu'un certain nombre de pays comme l'Espagne, l'Italie ou la Grèce se retrouvent en première ligne et seuls pour gérer le problème.
Quel autre cardinal vous choisiriez dans ceux qui ont été nommés? Il y en a qui viennent donc il y en a un qui vient de Kinshasa, d'autres un autre de La Havane, de Jakarta.
Je mettrai en avant parce que c'est pour l'avoir rencontré, c'est d'abord une très très belle figure. La RD Congo est un pays extrêmement compliqué.
Donc Mgr Fridolin Abongo, voilà, archevêque de Kinshasa.
Voilà, archevêque de Kinshasa. On parlait au début de cette émission de la corruption. Voilà, s'il y a un pays qui aujourd'hui est vraiment souffre de la corruption de ses élites, du pillage de ses ressources naturelles et de ses richesses, à la fois par ses élites et puis par finalement par le monde entier qui vient se servir en ressources naturelles en RD Congo sans que les Congolais puissent en profiter. Voilà, c'est finalement un pays emblématique de tout ce qui peut se faire en Afrique. Et voilà, l'Église a depuis longtemps élevé la voix pour défendre finalement les Congolais, crier contre la corruption, mettre en garde les élites. Et Mgr Ambongo a été vraiment un de ceux qui a été nommé archevêque de Kinshasa donc récemment par le pape François, un de ceux qui ont été le plus qui ont crié le plus fort,
le plus courageux,
à la fois pour la paix et contre la corruption et pour la concorde aussi du pays. C'est vraiment une très très belle figure qui s'est beaucoup dépensée pour faire entendre la voix des Congolais. Et finalement, cette récompense du cardinalat est tout à fait méritée. Et voilà, c'est un homme qui, en permanence, va chercher le dialogue avec tous ceux qui veulent que la RD Congo puisse s'en sortir.
On fait une deuxième pause et on vous retrouve. On va parler entre autres de votre livre « Comment l'Amérique veut changer le pape » paru donc aux éditions Bayard. Le pape François qui a dit dans un de ses trajets en avion à propos de votre livre « C'est une bombe ». Thank you.
Plaisance à Montrégeau, 94.1.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
L'actualité de l'Église universelle, c'est pour rappel pour ceux qui nous prendront en cours de route. Le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec nous aujourd'hui, ce mois-ci, puisque c'est une émission mensuelle, Nicolas Senez, et uniquement Nicolas Senez, journaliste correspondant du journal La Croix à Rome. Le pape François donc a l'habitude, lors de ses voyages en avion, donc de donner des conférences de presse. Il en a donné plusieurs, en tout cas au moins deux, ai-je vu, avec des propos vigoureux. J'aimerais qu'on parle un petit peu de votre livre, en espérant qu'on pourra faire une émission plus longue avec vous pour y faire plus largement écho. Vous avez donc publié un livre, je rappelle le titre de ce livre, « Comment l'Amérique veut changer le pape », paru aux éditions Bayard. Le pape François a dit lui-même que c'était une bombe. Ce matin, l'un de nos chroniqueurs expliquait quel était le propos de votre livre. Vous laissez entendre qu'il y a de riches Américains qui auraient, alors je vais le dire peut-être de manière un peu rapide, acheté une partie de l'épiscopat américain et travailleraient au renversement du pape François.
Oui, alors acheté, c'est peut-être un bien grand mot, mais c'est effectivement l'épiscopat américain, l'Église américaine a de gros problèmes, en particulier à cause des dommages et intérêts qu'elle a dû payer dans les affaires d'abus sexuels. Et c'est une Église qui a un assez gros train de vie. Et pour garder ce train de vie, d'une certaine façon, ils se sont tournés vers leur donateur, qui, un certain nombre de gens ont, d'une certaine façon, investi dans l'Église, hein, comme on investit dans une affaire. Ils attendent de leur investissement un retour sur investissement, et donc un retour, pour le coup, plus idéologique, pour faire porter des idées, que l'Église porte d'un certain nombre d'idées très extrêmement conservatrices, et puis finalement les idées du catholicisme américain, qui ne sont pas forcément celles qui sont portées par le catholicisme universel. Et si dans les précédents pontificats, effectivement, Rome et le Vatican ont pu être sensibles à leur discours et à leur pression, c'est pas le cas de François, et ça, ils en sont extrêmement fâchés. Que ce soit le discours de François contre un libéralisme débridé, voire même ce qu'il peut dire contre la peine de mort, ou le fait qu'il discute avec des États comme la Chine. Tout ça, c'est quelque chose qui fâche énormément les catholiques américains, et n'arrivant pas à faire pression sur le pape avec leurs finances, ils ont finalement décidé un petit peu ce sont des investisseurs, ce sont des entrepreneurs, et aux États-Unis, quand le PDG ne fait pas ce que disent les actionnaires, un beau jour, on lui dit, tu es débarqué, fais tes cartons, on a nommé quelqu'un d'autre à ta place. Et ils ont fait un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de débarquer le pape à leur manière, en poussant effectivement des gens qui ont appelé le pape François à la démission. Alors évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe dans l'Église. Ils ont sans doute sous-estimé aussi la fidélité et la loyauté que le pape peut avoir à Rome. Et voilà. Mais c'était quand même un signal assez fort de la part d'une Église qui est extrêmement puissante.
Alors Nicolas, si ça ne vous embête pas, j'espère qu'on aura l'occasion de reparler plus longuement de votre livre. Je voudrais revenir sur quelques-uns des propos qui font indirectement écho à votre ouvrage et en tout cas à la nécessité qu'il y avait de dire tout cela. Le pape François a parlé de l'ambiance dans la curie romaine. Vous en avez parlé un petit peu à cette antenne l'une ou l'autre fois, laissant entendre qu'il y avait, il était l'objet de critiques un peu partout et aussi donc dans la curie. Je le cite, il a distingué les critiques loyales de celles qui se font sous la table. Ceux qui te font des sourires et après te poignardent dans le dos, ça n'est pas humain. Telle est l'ambiance à la curie romaine ?
Oui, alors, il y a un certain nombre de personnes à la curie romaine qui... C'est un petit groupe, c'est loin d'être une majorité. Hein. En 6 ans, François a eu le temps quand même aussi d'y mettre ses hommes et puis aussi de convaincre sur la nécessité des réformes qu'il a entreprises. Donc, mais il y a quand même un certain nombre de gens pour qui vivent effectivement cette réforme comme une perte de pouvoir et qui, dans cette logique de pouvoir, essayent de mettre des bâtons dans les roues du pape. Voilà, ensuite, il en a conscience. Il ne faut pas non plus surestimer ses gens. Hein. On a toujours tendance, l'ensemble de ces personnes font beaucoup de bruit et donc sont plus visibles que d'autres. Ensuite, voilà, le pape François nous disait, ben oui, il y a peut-être un risque de schisme de la part de certains, mais je n'ai pas peur de ça, parce qu'il y a finalement la foi du peuple de Dieu est plus forte que ça, d'une certaine façon. Et ils ne sauront pas se laisser entraîner par ceux qui veulent finalement... Il nous expliquait, un schisme, c'est quoi ? C'est se couper... c'est quelques élites, quelques-uns qui se coupent de la foi commune du peuple de Dieu, enfin, du bon sens commun de Dieu. Et voilà, il y a la confiance hein, dans le fait que voilà, ces gens-là ne représentent finalement pas non plus grand-chose.
Il a eu d'autres expressions que j'aimerais vous commentiez. Il a parlé d'une idéologie ascétique de certains, du primat d'une morale ascétique sur la morale du peuple de Dieu, d'école de rigidité, de chemin chrétien de type schismatique. Est-ce que vous pouvez commenter ces différentes expressions ?
Oui, ben, enfin, il y a le fait, on l'a vu hein, sur un certain nombre de sujets où le pape promeut finalement une morale... on va dire la morale évangélique, c'est-à-dire si on prend les gens là où ils sont pour les amener vers la sainteté, et on ne fait pas ce qu'il a toujours dit, on ne fait pas de douane à l'entrée de l'église, on s'adresse pas uniquement aux parfaits. Alors justement c'est une des questions aussi aux États-Unis sur les questions morales, où il y a par exemple quand le pape parle de l'accueil des homosexuels. Un certain puritanisme américain qui pousse de hauts cris et qui a fait finalement de l'homosexualité une espèce de péché, de nouveau péché capital et indépassable, où il faudrait absolument refuser tout contact avec les homosexuels sous peine d'être contaminé par ce péché. Alors c'est pas ce que dit François, il dit ben voilà, oui, les actes homosexuels sont un péché, mais on accueille des personnes, et c'est pas parce qu'ils sont homosexuels qu'ils doivent être mis au banc de l'Église. Et ce que je montre aussi dans mon bouquin, ce qu'il explique à un certain nombre de catholiques américains, c'est qu'eux non plus ne sont pas parfaits. Et par exemple, sur les questions économiques, un certain nombre ont construit leur fortune de façon pas toujours très claire, en exploitant des gens à l'autre bout du monde, et finalement que leur argent a aussi, d'une certaine façon, pour certains, le goût du sang. Et que... ils peuvent difficilement se proclamer comme des parfaits alors qu'ils sont des pécheurs comme les autres. Et eux sont accueillis dans l'Église malgré effectivement leurs péchés, c'est ce qui n'est pas un souci. Mais ça, c'est effectivement un discours qui est extrêmement dur à entendre de la part de gens qui, grâce à leur argent, ont finalement pris les premières places dans l'Église et qui, effectivement, eux se voient comme des parfaits. Donc ça, c'est quelque chose de compliqué aujourd'hui dans le catholicisme américain. Et puis, finalement, ce moralisme est quelque chose qui a tendance à toucher toute l'Église.
Nicolas Assenès, j'aimerais qu'on finisse en parlant un petit peu du prochain synode sur l'Amazonie. Il y a un article, entre autres, publié dans votre journal de Mgr Emmanuel Lafond, évêque de Cayenne, qui dit qu'il espère que la question de l'ordination d'hommes mariés, puisque c'est un des sujets qui sera débattu à l'occasion de ce synode, ne va pas étouffer l'ensemble des sujets de ce synode. Alors si vous deviez nous dire comment teasing, ce dont ce synode va traiter, quels sont les enjeux et la particularité de ce synode qui est pour une région géographique bien précise.
L'enjeu est assez, finalement assez simple, hein, c'est comment l'Église catholique, aujourd'hui, est capable de s'adresser aux populations qui vivent aujourd'hui en Amazonie, et donc comment elle est à l'écoute de leurs difficultés. Alors c'est à la fois les difficultés sociales, les difficultés d'environnement dans un endroit où la question écologique est effectivement extrêmement forte, les difficultés culturelles, c'est tout le lien avec les peuples autochtones qui sont les premiers habitants de cette région amazonienne, mais aussi qui sont par leur culture les conservateurs de cet environnement. Et puis bah, comment elle s'adresse elle est présente aux catholiques. Et donc comment l'Église aujourd'hui est capable d'adapter ses structures, d'adapter ses formes de célébration d'adapter aussi ces combats sociaux pour répondre aux besoins à la fois matériels et spirituels, parce qu'ils sont liés, de ces populations. Et donc, la question de l'ordination d'hommes mariés, elle fait partie de cette question. Elle n'est pas centrale, mais voilà, une des questions peut être dire, dans cette adaptation aux nécessités de nos populations et aux nécessités du peuple de Dieu en Amazonie, est-ce qu'il ne faut pas aller jusqu'à l'ordination d'hommes mariés pour permettre à un certain nombre de communautés qui sont privées d'Eucharistie parce qu'il n'y a pas suffisamment de prêtres ou qu'elles sont extrêmement isolées? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une forme d'ordination sacramentelle d'hommes mariés qui permette justement la célébration de la messe dans ces zones reculées pour leur permettre de vivre pleinement leur foi? Voilà. Mais c'est plus dans cette optique-là que voilà, c'est, l'ordination d'hommes mariés n'est pas centrale, ça ne doit pas en tout cas être le sujet central, mais c'est peut être une des conséquences, on va dire, peut-être une des conséquences qu'on peut considérer pour certains comme une conséquence extrême, mais une des conséquences d'une restriction beaucoup plus globale, beaucoup plus fondamentale aussi, sur la réforme de l'Église.
En tout cas, à propos de ce synode, un certain nombre de responsables indigènes donc, ont été invités et déjà consultés, et ils disent que l'attention du pape les remplit d'espoir. Merci beaucoup Nicolas Senez. Je rappelle le titre de l'ouvrage que vous venez de publier, « Comment l'Amérique veut changer le pape », paru aux éditions Bayard. Un grand merci à vous. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.